Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le journal Le Monde annonce qu'à Paris, le projet de mémorial des victimes de l'esclavage qui devait être installé aux Tuileries, eh bien, serait dans l'impasse où il y a des problèmes, notamment au sujet du choix des artistes. Eh bien, nous, dans le cours de l'histoire, nous allons les emprunter, ces routes de l'esclavage.
Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Les routes de l'esclavage, depuis quand, où, quelle organisation? En juin 1914, la revue de politique extérieure, questions diplomatiques et coloniales, évoque les marches sahariennes. Il y est question de la première grande exploration africaine, celle de Dunham et Clapperton, partis en 1821 de Tripoli pour le compte du gouvernement anglais. Ils sont escortés de 200 Arabes bien armés. Ils prirent pour traverser le désert la route des esclaves, y lit-on. La piste était, de place en place, jalonnée d'ossements qui marquaient l'exode lamentable des captifs noirs, venus des savanes humides du Niger et décimés par la faim et la soif avant d'avoir atteint les oasis tripolitaines. Les routes de l'esclavage, elles sont multiples et leur histoire aussi est jalonnée d'ossements. Catherine Cochry-Vidrovitch, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais que nous commencions par un sujet d'actualité dès qu'il est question des routes de l'esclavage. Vous devez subir cela régulièrement. Nous avons à l'esprit, dès qu'il est question de l'esclavage, de la traite transatlantique des esclaves noirs qui traversent l'océan, qui sont forcés à aller en Amérique. Et puis souvent, d'autres discussions arrivent en disant « Oui, mais vous oubliez d'autres routes de l'esclavage ». Vous le ressentez, ça aussi, notamment ces routes de l'esclavage qui sont en Afrique même, subsaharienne.
Oui, bien sûr, elles ont longtemps été oubliées, en particulier en France et du côté de l'Atlantique, parce que l'attention a été attirée évidemment par ce qui intéressait effectivement le commerce français, et d'abord portugais, espagnol, etc., et britannique, qui était de transporter des esclaves, d'abord en Europe. On l'oublie souvent. Au XVe siècle, les Portugais sont arrivés sur les côtes d'Afrique et l'Amérique n'est pas encore découverte, comme on disait alors, par les Européens. C'est ça seulement en 1492 à la fin. Or, les Portugais sont arrivés à Ceuta, au nord du Maroc, en 1415. Et pendant un an, ils ont exploré toutes les côtes occidentales d'Afrique. Ils ont rapporté surtout de l'or, parce que c'est l'or qu'ils allaient chercher, mais évidemment d'autres marchandises. Et parmi ces marchandises, des esclaves. Et on estime qu'environ 3500 esclaves ont été apportés à Lisbonne au XVe siècle.
Oui, parce que c'est drôlement intéressant dans votre ouvrage, Catherine Cochry-Vidrovitch, Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines du 6e au 20e siècle, publié chez Albin Michel et Arte Édition. Il y a cette réflexion, vous appelez ça les fondamentaux, mais c'est vrai qu'il faut dire les fondamentaux, parce que ce qui intéresse, c'est aussi ce qui pose concrètement question, les chiffres. Vous arrêtez sur les chiffres, mais dès le début de l'ouvrage, pour dire réglons la question des chiffres. Donc, si nous résumons sur ces routes, bon, il y a la traite, celle que nous connaissons le plus, la traite transatlantique. Où en sont les historiens, les historiennes sur les chiffres sur cette traite?
Alors, sur la traite transatlantique, qui est la dernière, on y reviendra sûrement tout à l'heure, les chiffres sont à peu près certains. Alors, je dirais à peu près certains parce que ils sont de l'ordre de 12 à 13 millions d'esclaves débarqués dans les Amériques, l'ensemble des Amériques, y compris les îles. Et malheureusement, pour ce chiffre, on n'est pas à un personnage près. Donc les premières recherches informatisées ont commencé avec Philippe Curtin en 1970. Et il était arrivé à plutôt entre 9 et 11 millions. Depuis, il y a eu des recherches faites par d'autres chercheurs. Et maintenant, on est à peu près convaincu qu'il s'agit de entre 12,5 et 13 millions d'esclaves qui ont débarqué en Amérique, toutes les Amériques. Des recherches ont été faites de façon différente, et c'est pourquoi on est à peu près sûr du chiffre, parce qu'il y a eu trois méthodes suivies par trois équipes d'historiens à 10 ans d'écart ou 20 ans d'écart. La première, c'était de rassembler toutes les statistiques, la traite des esclaves, c'est-à-dire le commerce des esclaves étant légal. Il y avait des archives, des comptabilités, les archives des navires, etc., etc. Donc, trouver tout ce qui existait dans tous les ports américains, depuis l'Argentine, le Brésil, jusqu'au Canada. La deuxième méthode, et c'est celle-ci qui est arrivée à environ 9 à 11 millions, la deuxième méthode a été de faire le même genre de travail, mais à partir des ports africains. Tous les esclaves qui étaient sortis d'Afrique. C'est une équipe aussi, parce que ce n'est pas des choses qu'on fait tout seul, c'est une grosse équipe informatisée qui était conduite par un historien canadien, Paul Lovejoy, et il est arrivé un peu plus loin, un peu plus fort. Et puis la troisième méthode a été de compter tous les bateaux. Et ça, on les connaît aussi dans l'ensemble. Évidemment, on peut en oublier quelques-uns, on peut en rajouter quelques-uns, parce que ça se passe sur trois siècles. Mais les trois recherches ont donné à peu près le même chiffre, et chaque fois un peu plus fort. Et c'est pourquoi maintenant, on trouve soit 13 millions, soit, quand on est prudent, 12 millions et demi. Enfin, disons, c'est cet ordre-là.
Cet ordre-là qui est impressionnant pour une traite transatlantique, celle que nous connaissons, et vous l'avez rappelé, Catherine Cochry-Vidrovitch, c'est la plus récente, parce qu'il y avait d'autres traites auparavant. Et là aussi, hein, il y a cette réflexion à apporter. Alors, si nous nous arrêtons à la traite qui se passe en Afrique même, c'est-à-dire la traite subsaharienne.
Alors, en Afrique même, il y a eu, comme dans toutes les sociétés, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, dans toutes les sociétés anciennes, et je dirais plus la société était dépourvue de moyens techniques, et plus elle pratiquait l'esclavage, parce que l'esclavage était la forme, l'outil primaire des gens qui n'avaient pas de technologie. C'est-à-dire posséder comme outil d'autres gens qui travaillaient pour eux. Les préhistoriens s'interrogent pour savoir si l'esclavage existait déjà en préhistoire. Alors, je ne sais pas s'ils trouveront, mais en tous les cas, c'est certainement quelque chose de très très ancien. Et ça n'a pas du tout commencé au XVe siècle. Ça a commencé, on ne sait pas quand, mais il y a très longtemps. Donc, ça a commencé aussi en Afrique, comme partout, dans toutes les sociétés. Il n'y a pas de raison de penser qu'elles étaient moins... Elles pratiquaient moins l'esclavage que les autres. Et alors là, il y a eu un biais qui est intervenu, en particulier quand on a commencé à rechercher l'histoire de l'Afrique. On a découvert que l'Afrique avait une histoire. Avant, encore en 1960-70, quand j'ai commencé les recherches sur l'histoire africaine, écrire de l'histoire africaine, des collègues historiens à l'université, non spécialistes, me disaient « mais enfin, ça existe l'histoire africaine ». On confondait avoir une histoire, comme tout le monde, et puis avoir écrit son histoire, qui était autre chose, effectivement. Donc on a commencé en France à écrire l'histoire à partir des années 1960-70. Je faisais partie, pratiquement pas tout à fait de la première équipe, enfin, disons de la deuxième génération. Et on a pu donc s'apercevoir que, contrairement à ce que pensaient beaucoup de collègues, il y avait énormément de sources. Alors, ces sources sont très variées. Il y a beaucoup de sources écrites, à commencer par les sources arabes, bien entendu, parce que les musulmans, on sait, Mohammed a créé l'islam au 7e siècle de notre ère, et c'est à partir de ce moment-là que vraiment on connaît les routes de l'esclavage. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont commencé à ce moment-là.
Ça veut dire qu'il y a à ce moment-là des routes de l'esclavage, mais qui reprennent sans doute des routes précédentes. Et d'ailleurs, vous évoquiez des archives. Bien, justement, il y en a, et parfois, elles viennent de poètes.
Ma couleur ne diminue en rien ma valeur. Tant que j'ai une belle langue et le cœur vaillant, il y a ceux à qui les racines donnent de la hauteur. Moi, mes vers de poésie sont mes propres racines. Combien de noirs manient le verbe et des blancs restent muets? Si je suis noir, le musc aussi. Je n'ai pour ma couleur aucun remède. Ma valeur est mon éloignement du péché, comme la distance entre terre et ciel.
Un extrait d'un poème de Nusiab Ibn Rabah, de documentaire, hein, Les routes de l'esclavage, le documentaire d'Arte auquel évidemment vous avez participé, Catherine Kokrividrovitch, poète arabe du 8e siècle, poète noir. Alors là, nous avons ici un texte qui nous dit oui, effectivement, il y avait des routes de l'esclavage. Juste, et là encore, je reviens, c'est un peu sinistre de poser la question du chiffre, mais c'est essentiel parce que nous vivons actuellement des débats mémoriels. Les historiens, les historiennes en sont où sur ces routes transsahariennes?
Ben, il y a eu, comme il y a souvent dans ce genre d'histoire, des concurrences de mémoire. Et du côté occidental, où pendant longtemps on a été, enfin on l'est toujours, mais on a été honteux d'avoir eu des ancêtres négriers, on avait bien envie qu'il y ait eu d'autres esclavages ailleurs. Et par conséquent, on a effectivement l'esclavage pratiqué par les arabo-musulmans est nettement plus ancien. Il commence avec l'expansion de l'islam à partir de l'Arabie, mais ça n'est pas le premier. Il y a eu de l'esclave de tout temps. On sait qu'il y a eu beaucoup d'esclavage à Rome, par exemple, en Grèce, enfin partout. Et là, ce n'étaient pas des esclaves noirs, c'était des esclaves de, je dirais, de toutes les couleurs, mais surtout blancs, parce qu'ils venaient des grands espaces du Nord qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, le mot esclave inspire slave, slavonie, enfin, donc ça venait des grands espaces du Nord. Kiev a été une route très importante pour faire venir les esclaves jusqu'à Istanbul, par exemple. Et la couleur ne semble pas avoir été quelque chose d'important. Ce qui était important, c'était que les esclaves soient des étrangers, et étrangers sur le plan culturel comme sur le plan de l'habitat. Parce que si on prenait des esclaves chez eux, ben, la première chose qu'ils feraient, c'est de retourner chez eux. Par conséquent, il fallait un espace, il fallait aller les chercher. Et puis, il fallait qu'ils soient différents, et la différence était culturelle. Et à l'époque, la grande culture, c'était la religion. Donc, déjà chez les Grecs anciens, est esclave celui qui n'a pas la culture grecque. Ensuite, chez les chrétiens, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire qu'il y a eu des musulmans qui ont été en esclavage, on le connaît, par ce qu'on appelait la course en Méditerranée, entre l'Afrique du Nord et le sud de l'Europe. Et puis, chez les musulmans, il fallait ne pas être musulman. C'était ça la grande différence. Le saut fait vers l'esclavage des Noirs, c'est quand les Arabes partant d'Arabie conquièrent et convertissent progressivement un peu tout le monde méditerranéen, et en particulier en partant vers l'ouest, ils occupent la côte méditerranéenne et l'Afrique du Nord. À ce moment-là, ils vont faire des esclaves, les Berbères, qui étaient là depuis longtemps, sont pris comme esclaves, et puis finalement, les Berbères vont se convertir à l'islam, donc théoriquement, on ne peut plus les avoir, mais on va les utiliser. Ils connaissent très bien l'Afrique au nord du Sahara et le Sahara, ils connaissent les routes qui va devenir l'esclavage par l'utilisation du dromadaire, qui est introduit probablement au 1er siècle de notre ère, et par conséquent, les Berbères vont devenir les grands, si je puis dire, entre guillemets, producteurs d'esclaves noirs pour les Arabes du Nord. La plupart des caravanes sont des caravanes plus berbères qu'arabes. Mais évidemment, les financiers, ce sont les hommes d'affaires arabes du Nord. C'est comme ça que ça commence, comme esclavage de couleur à partir du 7e siècle. C'est pourquoi j'ai voulu que mon livre commence au 6e siècle. D'une part parce que on connaît par les premiers Arabes qui sont arrivés et qui ont laissé des récits, c'est important d'avoir des récits écrits, on sait qu'il y avait déjà de l'esclavage là où ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé des pays où il n'y en avait pas. Donc on peut déjà dire l'esclavage a commencé avant les Arabes. Puis le grand problème, c'est de savoir combien cet esclave, cet esclavage qu'on appelle souvent arabo-musulman, bon, on pourrait dire berbéro-musulman, enfin bref, ce que je viens d'expliquer, combien ? Alors, on est beaucoup moins sûr que pour les chiffres atlantiques, qui sont les seuls vraiment à peu près sûrs, disons, parce que
les 12 millions et demi, 13
les recherches
millions.
Ont été faites très précisément quantitativement avec Internet, les moyens informatiques, etc. Les estimations étaient plutôt plus fortes du côté occidental pour montrer qu'il y en avait plus. Et puis, il y a le travail d'un chercheur britannique, il y a quelques années, en 2006, je crois, qui a fait des chercheurs, là aussi, des recherches quantitatives, et qu'il arrive à l'hypothèse qu'il y a eu environ 6 à 7 millions d'esclaves qui ont traversé le Sahara et qui sont arrivés. C'est probablement dans cet ordre-là, plus les esclaves qui existaient depuis très longtemps, beaucoup plus longtemps, sur la côte orientale, vers l'océan Indien. Alors là, on est aussi très embarrassé parce qu'on n'a pas le même genre de comptabilité. On l'a peut-être, mais les recherches sont en cours. Elles sont commencées. Il y a plusieurs historiens arabisants qui travaillent sur la question. Alors, pour l'instant, on dit probablement 4 millions, dont la moitié au 19e siècle. C'est très hypothétique. À la question primordiale que vous me posiez, combien d'esclaves transportés à l'intérieur de l'Afrique? Alors, c'est très difficile, parce que d'abord, ce sont les Africains, les autres. L'Afrique, c'est énorme, donc il y avait beaucoup d'États. Des petits, des grands, et beaucoup de guerres, beaucoup de prisonniers. Et tous ces prisonniers, ils étaient vendables. Donc il y a eu des routes de caravanes internes très importantes, soit d'un État à l'autre, soit vers les côtes. Donc tous ces esclaves, ils ont été d'abord amenés par d'autres Africains, qui n'étaient pas des frères, hein. On dit quelquefois d'où les Africains sont frères, ils sont vendus. Ben pas du tout, les Africains étaient comme tout le monde. C'était des centaines d'États différents qui tantôt s'entendaient bien, tantôt se faisaient la guerre. Et il n'y avait pas de prison, donc les prisonniers, ou bien on les tuait, ou bien on les vendait. Et donc il y a déjà ce chiffre qu'on connaît par ceux qui sont partis à l'extérieur. Et puis, il y avait des États qui étaient esclavagistes, on le sait, à l'intérieur. En particulier, probablement avant déjà, mais en particulier quand ils se sont justement islamisés. Il y a eu progressivement, à partir du 16e, 17e et surtout au 19e siècle, de grands empires théocratiques, musulmans, de conquêtes. Et les conquêtes, c'était des Africains qui étaient transformés en esclaves pour continuer à faire les conquêtes, ou bien pour être mis au travail. Donc tout ceci est très difficile à dire.
C'est difficile à dire, mais Catherine Cochry-Vidrovitch, au moment d'annoncer sur les réseaux sociaux votre venue dans le cours de l'histoire sur France Culture, bon, au-delà des gens qui disent qu'ils vous aiment beaucoup, et c'est justifié, ils aiment beaucoup votre travail, vous allez faire plaisir à tous les médiévistes, parce que dans l'évocation de ces routes de l'esclavage, vous évoquez les Saxons, ce sont des routes anciennes, ce sont des routes qui existaient avant l'arrivée des musulmans en Afrique, et puis les musulmans ont repris la question, mais c'est vrai que vous dressez le bilan, et pour synthétiser ce que vous venez de nous offrir comme panorama, vous dites que il y a environ 50 millions d'individus arrachés à l'Afrique en un peu moins de 10 siècles. C'est absolument gigantesque, hein. Et c'est vrai que ces routes de l'esclavage, nous les lisons aujourd'hui, alors de manière plus complexe, nous comprenons qu'elles sont multiples, mais souvent à travers la traite des Noirs, la traite transatlantique. Il se passe quelque chose de sidérant à ce moment-là. Ce que je vous propose, c'est de parcourir ces routes et nous allons commencer dans l'île de Gorée.
Cher monsieur, vous voici en pèlerinage à ce sentier africain, témoin de tant d'humiliation et de souffrance. Alors, entre ces deux escaliers que vous avez enfermés à cheval dans la cour, se passait la dernière vente en Afrique. accoudé au balcon, à ces escaliers, l'acquéreur, le marchand d'esclaves européen, qui le gardait faire. Ces esclaves les affranchis les palpés comme du bétail, pour permettre à l'acquéreur au marchand de discuter sur la valeur musculaire de chacun. Parce que chaque ethnie africaine avait sa cote et sa spécialisation comme une espèce bovine, une chevaline. Vous avez ce couloir qui conduisait vers ce que nous appelons aujourd'hui la porte du voyage sans retour. Parce qu'à partir de cette porte donnant sur la mer, pour ces esclaves, c'était adieu l'Afrique. C'est justement à partir de cette porte donc que le pape a demandé pardon à l'Afrique. Pourquoi? Parce que beaucoup de missionnaires, vous savez, étaient impliqués à la traite des Noirs. Oui, c'était pas tous des saints, nos missionnaires.
Le pape en question est Jean-Paul II, la visite guidée de la maison des esclaves de l'île de Gorée. C'est aux 20h de France 2 en 2003. Catherine Kokri-Vidrovitch, nous évoquons ces routes de l'esclavage, mais sur des routes, il y a des étapes, il y a des contacts. L'île de Gorée est une zone de contact. Les négriers sont en contact avec d'autres négriers, mais des Noirs. Comment se font ces contacts? En fait, les Européens n'entrent pas dans les terres africaines. Ce ne sont pas eux qui vont chercher les esclaves.
Les Européens, pendant très longtemps, ne sont pas rentrés dans les terres africaines, ou très peu, quelques métis sont rentrés et ont exploré à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, pour plusieurs raisons. La première, c'était que les Européens n'étaient pas du tout armés contre les maladies africaines, qui étaient nouvelles, et qui, donc ils mouraient très facilement. Donc c'était dangereux. C'était dangereux aussi pour les Africains, mais un petit peu moins dans la mesure où ils avaient déjà quelques anticorps, je présume. Et puis aussi parce que ils étaient alliés à des chefs côtiers qui faisaient le travail pour eux. Ça aussi, ça a été quelque chose qui a été très difficile à admettre et à comprendre. Maintenant, c'est fait, hein, parce que tout, les recherches sur l'histoire des routes des esclaves sont complètement internationales, et les historiens africains y participent pleinement. Mais accepter effectivement que ce qu'on disait les frères, comme je disais tout à l'heure, vendaient leurs frères, ce qui n'était pas du tout vrai, ils vendaient des étrangers, ils allaient les ramasser ailleurs, et il y avait tout un trafic interne qui s'est énormément développé à cause de la demande extérieure. Parce qu'on ne sait pas grand-chose de l'esclavage ancien, sauf par les études des ethnographes, des anthropologues, mais il faut imaginer ce qu'était l'esclavage avant qu'il y ait des traites qui partent dans l'international. Ce qui a commencé très tôt, ça on l'oublie aussi côté européen, très tôt dans l'océan Indien. Les contacts entre l'océan Indien, y compris l'Inde et même la Chine, datent en tous les cas pour jusqu'à la péninsule indienne et au-delà de probablement 1000 ou 1500 avant notre ère. Le premier esclave noir que l'on trouve, ça ne veut pas dire qu'il y en avait avant, mais il y a une soierie qui le représente à Canton en Chine, c'est le Xe siècle. Donc le trafic dans l'océan Indien était le plus ancien. Tout ceci est en train d'être recherché.
C'est en train d'être recherché dans ce que vous nous expliquez. Gorée, bien sûr, est le départ des navires vers l'Amérique, mais cela signifie que la route de l'esclavage commence avant Gorée. Et là, nous pouvons évoquer les caravanes, parce que ce qui est aussi intéressant et peut-être essentiel dans cette réflexion, c'est l'humain. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont été, disons-le, déportés. La déportation, la traversée, le mouvement commence par les caravanes. C'est déjà très difficile.
Absolument, absolument. Alors pour revenir sur Gorée, Gorée a été érigée en un lieu mémoriel. C'est tout à fait vrai. Et cette maison des esclaves mérite d'être visitée, bien que pour un certain nombre, disons, plutôt majoritaire des historiens, ça n'a jamais été une maison des esclaves, dans la mesure où les bateaux ne pouvaient pas aborder de ce côté de l'île, compte tenu des moyens nautiques de l'époque, mais plutôt de l'autre côté. Et donc, c'est une maison de seigneur qui avait des esclaves, certainement, qui les mettait dans ses caves, c'est probable, mais ça n'est pas le centre Ce qui n'a pas grande importance. L'importance, c'est le lieu qui le rappelle, et ça, c'est tout à fait réel. Une traite des esclaves qui a d'ailleurs été plus importante sur ce qu'on appelait la côte des esclaves, c'est-à-dire du côté du Bénin, que du côté du Sénégal. Gorée a exporté les esclaves au XVIIe ou au XVIIIe siècle, mais après, c'était pratiquement fini. Tandis que c'était pas du tout fini. Dans d'autres points de forts fortifiés construits par les Européens tout le long de ce qu'on appelait la côte des esclaves.
Avec cette réflexion à avoir sur ces différentes routes de l'esclavage, certaines, vous nous l'expliquez, sont une longue continuité, presque de tradition, elles sont là, et puis il y a des évolutions, mais ces routes existent toujours. Mais avec la traite transatlantique, il y a une réflexion, il y a une théorisation, il y a même une économie, et dans cette réflexion intervient le pape.
Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces dix royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles sarrasins et païens.
Un extrait de la bulle pontificale Romanus Pontifex, c'est le pape Nicolas V, une bulle datée du 8 janvier 1455, une lecture d'Olivier Martineau dans le cours de l'histoire sur France Culture. Catherine Kokrividrovitch, ici, nous avons, avec la traite transatlantique, une réflexion sur qui est l'autre. Et nous l'entendons dans cette bulle pontificale. Le pape définit l'autre. L'autre est l'infidèle. Mais c'est surtout, avec cette traite, un nouveau regard qui se porte sur l'homme, la femme d'Afrique. La couleur de peau, doucement, s'impose comme une différence. Ça ne l'était pas avant, vous nous l'avez dit. Comment ça s'impose? Pourquoi ça s'impose à ce moment-là?
Bien, ça s'impose avec ce que en Europe on appelle les grandes découvertes, c'est-à-dire l'arrivée des Européens dans les Antilles, au Brésil en 1500, un petit peu après en Amérique du Nord, et surtout l'introduction, l'exploitation de plantes américaines qui vont ou apporter en Amérique, qui vont avoir un succès extraordinaire en Europe. Et c'est le cas de la canne à sucre. La canne à sucre intervient assez tardivement. La canne à sucre existait depuis longtemps en Europe orientale. Elle était en Égypte, elle arrive par... elle était en Inde, elle arrive en Égypte, elle est apportée par les Portugais dans les îles de l'Atlantique. La canne à sucre exige beaucoup de soleil, beaucoup d'humidité, et donc dans ces îles tropicales, ça ne marchait pas. Et le démarrage va être une décision effectivement religieuse, puisque la religion c'était la civilisation de l'époque. Au XVIe siècle, les rois très catholiques en Espagne font la reconquête contre l'islam du royaume de Grenade et décident que tous les habitants, tous les gens du royaume doivent être chrétiens. Et par conséquent, c'est l'exil pour les musulmans et pour les juifs. Les juifs étaient admis depuis longtemps dans la culture hispanique, puisqu'ils avaient, les riches d'entre eux, parce qu'il y avait aussi beaucoup de petits juifs, pauvres juifs, mais les métiers d'argent étaient considérés comme non respectables pour les chrétiens, et c'était donc les juifs qui étaient banquiers. Donc il y avait quelques hommes d'affaires juifs importants, donc il était important de les exiler pour confisquer leurs biens. Ils sont partis vers le Portugal. 20 ans après, le Portugal fait la même loi, expulse les juifs, et ils s'embarquent dans des conditions épouvantables. Ce n'était pas un voyage d'agrément du tout, surtout qu'il y avait énormément de petites gens. Ils vont vers le sud, ils vont vers l'Afrique du Nord, c'est l'origine des ce qu'on appelle les juifs séfarades, et ils vont plus au sud, dans les îles, en particulier les îles, l'archipel du Cap-Vert, qui est en face du Sénégal. Et là, il se trouve probablement une trentaine de marchands. Sur cette trentaine de marchands, il y en a probablement une quinzaine qui étaient juifs, une quinzaine qui étaient des Portugais normaux, si je puis dire. Et ils se lancent dans le commerce des esclaves. Et ils vont donc prendre contact avec la côte. Et à partir de ce moment-là, la canne à sucre arrive avec les Portugais. Elle est adoptée dans une autre île, Saint-Thomé, en face de ce qu'on appelle la Guinée équatoriale. Et c'est la première plantation esclavagiste qui existe dès le XVIe siècle. Et c'est une grande révolte des esclaves. Vous avez tout le schéma que l'on connaît après dans les plantations américaines, c'est-à-dire une population très majoritairement esclave, avec quelques propriétaires, métis ou portugais, mais surtout métis à cause du climat. Et les esclaves se révoltent, parce qu'ils sont très nombreux. Et finalement, il va y avoir un grand révolté qui s'appelle Amador. Et ils vont détruire, brûler les plantations. Et les planteurs décident à ce moment-là de partir. Et le Brésil vient d'être découvert, enfin le début du Brésil vient d'être découvert en 1500. À la fin du siècle, ils démontent les moulins, ils partent au Brésil et ils installent la canne à sucre au Brésil. Elle va passer à la fin du XVIIe siècle dans les Antilles, au XVIIIe siècle, ce sont les Antilles, en particulier Saint-Domingue, qui deviendra Haïti. Et la canne à sucre est un produit extraordinaire pour le profit occidental. Alors là, ça devient une affaire complètement économique.
On peut écrire l'histoire de l'esclavage à partir de l'histoire de la canne à sucre, avec toujours cette question du moment où les Africains noirs deviennent, mais dans l'archétype européen, des esclaves. Écoutez ce que disait Fanny Glissant, qui réalise ce film documentaire sur les routes de l'esclavage auquel vous avez participé, Catherine Cocry-Vidrovitch.
L'esclavage, c'est l'invention de la race. En fin de compte, c'est au cœur des plantations sucrières que se sont définies d'un côté les blancs et de l'autre côté les noirs. Quand vous allez demander à un paysan du fin fond de la Beauce au XVIIIe siècle qu'est-ce que c'est que d'être blanc, et ben, il ne peut pas vous répondre parce que tout simplement ça n'a pas de réalité pour lui. Parce qu'il ne connaît pas la différence entre les blancs et les noirs. L'esclavage entraîne le racisme et pas le contraire.
Fanny Glissant, qui évoque l'esclavage et le racisme, avec une question autour même de ce mot d'esclavage. Catherine Cocry-Vidrovitch, c'est vrai dire un esclave, avec tout de suite l'archétype qui nous envoie sur une personne noire. Mais non, en fait, aujourd'hui, le vocabulaire même évolue. Un esclave, vous préférez utiliser une autre expression, être esclavisé.
Oui, absolument, parce que l'intéressant pour l'esclavage noir en particulier, qui est une spécificité européenne, atlantique. Avant l'Atlantique, les esclaves, on l'a vu, étaient de toutes les couleurs, si je puis dire. Et les plantations américaines veulent, la canne à sucre en particulier, exige une énorme main-d'œuvre. Alors on essaye les Indiens meurent comme des mouches, ils ne sont pas faits pour ça. Il y a une grande campagne, en particulier au XVIe siècle, de Las Casas pour interdire, et il obtient du pape l'interdiction de l'esclavage pour les Indiens. Il ne s'occupe pas des Noirs, parce que lui pense aux Indiens, donc les Noirs vont devenir esclaves à la place des Indiens. On essaye aussi les pauvres Blancs d'Europe, mais ça ne marche pas non plus. Et finalement, à partir de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, les négriers européens s'aperçoivent que les plus résistants, parce que c'est un peu le même genre de climat probablement, ce sont les Noirs. Donc, progressivement au XVIIe siècle, tous les esclaves atlantiques sont noirs. Et ça, c'est je dirais, l'invention européenne. Être noir, ça veut dire qu'on est bon qu'à être un esclave, et quand on est esclave, on est nécessairement noir. Ça, c'est complètement réalisé au XVIIIe siècle, au point que le mot nègre signifie esclave noir. Et à partir de ce moment-là, vous avez la naissance véritablement du racisme anti-noir. L'esclave est un inférieur, ça on le voit. On le voit par sa couleur dans l'Atlantique. À partir du moment où, vers la fin du XVIIIe siècle, on va dire que c'est quand même pas bien l'esclavage, il faudrait le supprimer. Ça va prendre un certain temps, mais ça prend à peu près un siècle. Enfin, finalement, l'esclavage sera supprimé au XIXe siècle, vers le milieu du XIXe siècle. Mais le noir, il est toujours affecté aux travaux les plus humbles et les plus dégoûtants. Et ben, il est toujours inférieur. Mais pourquoi est-ce qu'il est inférieur? Et c'est là qu'on va inventer le terme de race.
Ouais, le terme de race. Et puis, c'est vrai que l'utilisation de dire esclavisé, de dire on devient esclave, oui, tue cette idée de l'esclave qui serait de manière naturelle, intrinsèque, né pour être esclave, avec toute une réflexion sur ses routes et la transformation des individus, de ces gens qui sont réduits en esclavage. Écoutons Aimé Césaire.
À l'origine de l'histoire antillaise, moderne, il y a un phénomène qui constitue une véritable voie de fait historique. Il y a à l'origine une déportation. Nous naissons dans la cale des bâtons négriers. C'est là qu'est née l'histoire antillaise. L'histoire martiniquaise moderne naît là. Et bien ça, c'est important. C'est important. Cela signifie qu'il y a donc à l'origine la déportation de tout un peuple. Certains ont employé plus tard le mot de génocide. Il y a quelque chose de ce genre-là qui a causé un traumatisme dans ce peuple, un traumatisme dont l'ébranlement existe encore.
Dont l'ébranlement existe encore, l'écrivain Aimé Césaire, qui s'exprimait en 1982 en disant « Nous naissons dans la cale de ces navires négriers, ces gens sont nés là ». L'expression est très forte, Catherine Cochry-Vidrovitch. Cette notion de route est aussi une notion de transformation, mais c'est une volonté de la part des négriers de transformer ces gens qui sont déplacés.
C'est d'ailleurs la première étude que nous avons attaquée à deux, avec Éric Ménard, le premier ouvrage que nous avons écrit sur la question, c'est d'étudier comment on est devenu esclave, comment les Africains d'Afrique ont été faits prisonniers, se sont battus, ont été enlevés, et comment ils ont été esclavisés. Parce que être esclave, dire esclave, c'est chosifié dès l'origine. Il est né esclave. Non, il peut être né esclave, mais c'est parce qu'il a un ancêtre qui a été esclavisé. Donc, c'est pas par essence, c'est pas parce qu'on est noir qu'on est esclave, c'est parce qu'on a été ou l'ancêtre a été esclavisé et que depuis, on est considéré comme esclavisé. Ça, c'est très important parce que cette notion de l'esclave est nécessairement noir, c'est la naissance du racisme. Et c'est pourquoi, effectivement, le racisme tel quel est vraiment créé à la fin du XVIIIe siècle. Pour vouloir démontrer scientifiquement qu'il y a des races humaines différentes.
L'ouvrage que vous évoquez avec Éric Ménard, c'est « Être esclave, Afrique, Amérique, 15e, 20e siècle », publié à La Découverte. Et justement, c'est passionnant de lire vos ouvrages, Catherine Cochry-Vidrovitch, parce que nous sentons qu'il y a, non pas de manière intellectualisée de la part des négriers, une volonté de casser ces gens, et notamment en leur enlevant toute leur identité, notamment pour des gens dont la culture repose sur le culte des ancêtres.
Il est un pays où l'on ne meurt pas, la Casamance, au sud du Sénégal. Pour les Diola qui l'habitent, mourir est seulement devenir invisible. Les ancêtres morts sont là, dans le village. rouges, dans les arbres. Lorsqu'un vieillard est décédé, les femmes lui chantent une chanson. « Viens, viens, lui disent-elles, viens habiter notre ventre, viens. Nous ferons de toi un nouveau-né, nous ferons de toi un bel enfant. » Le mort est enseveli sous sa propre maison, qu'on détruit sur son corps. Il l'emporte avec lui, comme il emporte plusieurs de ses bœufs qu'on a sacrifiés, afin d'entrer chez les ancêtres avec les richesses de sa vie. Dans ces arbres, les ancêtres attendent d'être réincarnés dans un petit enfant. Ainsi, la vie est continue.
France Culture. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
De l'Afrique au créole haïtien, nous réfléchissons à ces routes de l'esclavage et Catherine Cochry-Vidrovitch. Oui, bien sûr, les routes de l'esclavage, nous les comprenons au sens qu'il s'agisse de déplacements de population. Mais nous voyons bien, et à l'évocation des ancêtres, combien elles détruisent l'humain, l'identité de ces gens déplacés, au sens où, en leur faisant oublier le culte des ancêtres, en leur faisant oublier même d'où ils viennent, l'esclavage prend tout son sens et l'individu est presque nié en tant qu'être appartenant à une collectivité. C'est aussi ça, ces routes de l'esclavage.
Absolument. Et ceci a joué aussi dans les sociétés africaines à l'intérieur du continent africain. C'est-à-dire que lorsque un chef africain va radier des Africains ailleurs, il l'arrache à ses ancêtres. Et même si cet esclave va appartenir à une famille, on a beaucoup parlé de l'esclavage domestique, c'est-à-dire l'esclavage familial, c'est de l'esclavage. C'est pas domestique, c'est un terme anglais pour indiquer c'est le privé par rapport au public. Mais ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus gentil que l'autre esclavage. Ça peut être aussi, si le maître est dur, c'est un esclave. Ceci dit, l'esclave n'a plus d'ancêtre. Donc il n'a plus que les ancêtres de son maître. C'est pourquoi il va porter, d'ailleurs souvent après, quand il est vraiment vendu comme esclave, le nom des maîtres. Et en Afrique même, ça a laissé des traces très profondes, parce que les descendants d'esclaves sont descendants d'esclaves à perpétuité, puisqu'ils n'ont pas plus d'ancêtres que leur ancêtre qui a perdu ses ancêtres. Et c'est pourquoi la notion d'esclave dans les sociétés africaines actuelles est encore souvent très présente, même si évidemment c'est devenu complètement illégal. Mais les anciens savent très bien qu'un tel, il dira, pour simplifier, c'est un esclave. Ça ne veut pas dire qu'il est esclave, bien entendu. Ça veut dire qu'il descend d'une lignée qui était esclave. Et ça, ça se prolonge. Et ça, c'est très difficile pour réformer une société que d'arracher ce qui fait partie, effectivement, d'un fondement des cultes des ancêtres des sociétés africaines. Très tenace et qui fait partie du statut social.
Et d'ailleurs, dans ce long travail que vous avez mené, Catherine Cochry-Vidrovitch, cette carrière consacrée à l'Afrique, à l'esclavage, à l'étude, eh bien, vous avez vu l'évolution gigantesque de ce champ de recherche où ça partait de pas grand-chose, sinon peut-être un peu d'économie. Et aujourd'hui, c'est une histoire beaucoup plus large avec une histoire culturelle et une histoire qui a des conséquences, eh bien, même dans la culture populaire.
On peut peut-être encore te soigner.
Pourquoi ? Histoire que je crève en tôle. Non. Je veux reposer dans l'océan, avec mes ancêtres qui ont sauté par-dessus bord. Ils savaient que mourir, c'était mieux que de porter des chaînes.
Ah ! un extrait du film Black Panther en 2018, réalisé par Ryan Coogler, un film Marvel où le héros est un homme noir et qui porte cette mémoire. Mais cette mémoire-là, en fait, et nous l'avons bien dit, il y a une volonté par les négriers de rompre toute identité. Mais cette mémoire-là, en fait, est en train de se reconstruire. Catherine Cochry-Vidrovitch, vous y contribuez aussi en tant qu'historienne par vos travaux. Vous assistez à ça, à cet intérêt sur la compréhension de ces routes de l'esclavage, mais pour reconstruire une identité.
Oui, c'est très, parce que c'est très important, parce que tous les l'humanité, disons hommes, femmes et enfants, hommes et femmes, cherchent à savoir d'où ils viennent. Et on l'a occulté partout. On l'a occulté en Occident, parce qu'on ne voulait pas parler de quelque chose qui était quand même pas très joli, qui était, on avait des ancêtres esclavagistes. On l'a occulté dans les Antilles, parce que on a imprégné pendant longtemps les populations du fait qu'esclave c'était honteux. Donc pendant longtemps, ils ne voulaient pas dire qu'ils avaient des ancêtres esclaves. On l'a occulté en Afrique, parce qu'on ne voulait pas dire qu'il y avait eu des Africains esclavagistes. Tout ceci ne réapparaît qu'à l'extrême fin du siècle dernier. Et c'est très intéressant de voir que la recherche, vraiment la recherche sur l'histoire de l'esclavage, elle est née en France avec la loi Taubira en 2001, à Bamako, au Congrès international des historiens africains en 2001, et au Brésil, avec une revendication des Brésiliens noirs, également en 2003. Donc il y a un mouvement qui n'a que 20 ans. Et en 20 ans, il y a eu des travaux extraordinaires qui ont été faits, il est devenu possible de parler de l'importance de l'esclavage qui a concerné des millions de personnes, soit dans là où ils avaient été emmenés, soit dans les sociétés africaines elles-mêmes. Ça fait partie de l'histoire sociale depuis toujours. Donc il faut la faire, il faut la connaître, il faut évidemment des lieux mémoriels, mais il faut aussi beaucoup de savoir pour ne pas risquer de dire des bêtises ou de déformer les choses. L'esclavage est un fait historique fondamental et, il ne faut pas l'oublier, très rentable pour tout le monde.
Oui, ah bah et ça, et des gens.
Sinon, ça n'aurait pas existé.
Ça n'aurait pas existé. Et juste pour clore ce panorama, dans le monde arabo-musulman, il a été question durant cette émission de cette traite qui existait. Là aussi, il y a une préoccupation contemporaine. Des travaux sont lancés sur ces routes de l'esclavage.
Oui, alors ça a été tardif, effectivement, mais Je ne connais pas la langue arabe, donc je ne vais pas vous préciser énormément. Il y a beaucoup de travaux depuis longtemps sur l'océan Indien, évidemment, puisque c'est là que c'était le plus ancien. Et puis, il y a un historien marocain qui s'est plongé dans l'histoire de l'esclavage, qui a publié son livre en anglais. Il a ensuite été traduit en français, édité au Maroc. Et au Maroc, il y a 2 ans, je crois, la traduction est partie, il y a 2 ans, c'est un succès absolument extraordinaire. Donc les Marocains s'intéressent. Vous en avez d'autres. Enfin, disons, les recherches ont été plus lentes, plus difficiles, mais elles sont tout à fait entamées.
Eh bien, pour faire le point sur les recherches, mais surtout pour faire le point sur les routes de l'esclavage, il y a ce livre, hein, Catherine Cochry-Vidrovitch, Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines, chez Albin Michel et Arte Édition. Marion Dupont, avec qui nous préparons l'émission, m'a dit, dis donc, c'est top. Et c'est effectivement top d'avoir une telle synthèse aussi claire. Merci beaucoup, Catherine Cochry-Vidrovitch, d'être venue aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Et nous retrouvons tout de suite Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous.
Les débats autour du 150e anniversaire de la Commune de Paris. Oui, des débats évidemment qui divisent.
La Commune de Paris nous évoque Louise Michel, le mur des fédérés, des incendies, Paris en ruine. C'est une histoire peuplée mais peu enseignée, longtemps un truc de gauche, qu'on imagine probablement proto-communiste, voire anarchiste. Une histoire parisienne, une histoire folklore à laquelle les commémorations nationales ont toujours accordé une place marginale, voire inexistante. Pourtant, cette année, pour son 150e anniversaire, on annonce des festivités flamboyantes, un anniversaire du tonnerre, si l'épidémie en cours le permet, Quoi qu'il arrive, on en parle, les éditeurs publient, des films sont produits et la Commune de Paris semble plus actuelle que jamais. D'ailleurs, les ambitions qui l'entourent font débat au Conseil de Paris, une véritable bataille de mémoire entre élus municipaux relatée par Denis Connard dans Le Monde. Du côté des Républicains, on souligne la violence des communards en oubliant celle de ses ennemis et sa culpabilité dans le saccage de Paris. La légende noire de la Commune de Paris a encore de beaux jours devant elle. Du côté de la majorité socialiste, on défend les valeurs et les réformes formulées par la Commune toujours opérantes aujourd'hui, démocratie directe et intégration des étrangers à la vie citoyenne en tête. 150 ans après l'événement, il y a toujours une lecture de droite et une lecture de gauche d'un événement qui était déjà un conflit entre républicains au moment où il advenait. Parce que la Commune de Paris n'est pas la dernière révolution contre la monarchie, c'est l'affrontement de deux conceptions de la République. L'une représentée par l'Assemblée nationale, réfugiée à Versailles, un symbole au minimum maladroit, et l'autre par la Commune de Paris, qui s'impatiente de voir se réaliser les promesses du régime républicain jusqu'à l'insurrection du 18 mars, avec le célèbre épisode des canons de la butte Montmartre.
Citoyennes, citoyennes, bonjour.
Bonjour.
C'est une journée magnifique ici à Paris. La grande place devant l'Hôtel de Ville est maintenant noire de monde. Les Parisiens, toutes classes confondues, sont venus assister à l'installation de la Commune à l'Hôtel de Ville.
La Commune de Paris, c'est 72 jours d'une expérience politique qui mettent encore en émoi, trop peu pour aller au bout des idées alors formulées, mais suffisamment pour les installer dans les têtes. C'est aussi l'histoire d'une défaite. L'armée nationale entre dans Paris et balaie l'expérience de la République sociale au cours de la semaine sanglante. Exécutions sommaires, procès, exil, déportation, les communardes et les communards sont littéralement écrasés par la répression qui s'abat sur eux. Une bataille s'annonce entre les crimes commis des deux côtés. Les otages, exécutés par la Commune de Paris, contre les exécutions sommaires et les charniers que l'on doit aux Versaillais. Une querelle qui dure depuis 150 ans et l'on espère que l'histoire, et non les mémoires de la Commune de Paris, trouvera sa place pour sortir de la guerre des symboles qui ne s'encombre visiblement pas de vérifier si les accusations sont fondées. La Commune de Paris, c'est un projet politique qui nous intéresse et nous questionne encore, mais c'est aussi une guerre civile, une république qui s'étripe sur ce qu'elle doit être, un concentré de notre histoire politique. Et pour commencer à se remettre les idées en place, rendez-vous sur le site de France Culture pour découvrir la série d'articles de Chloé Leprince, 5 lieux communs sur la Commune de Paris et 5 livres pour leur faire un sort. Les deux premiers épisodes sont déjà en ligne.
C'était le cours de l'histoire sur France Culture et nous nous retrouvons demain pour poursuivre notre histoire des routes on the route again, rencontre hallucinée de la Beat Generation.